Deuxième partie, chapitre 3. Il était déjà près de midi. Le prince savait que le seul membre de la famille Epanchin qu'il pouvait, et encore tout au plus, trouver à la ville, était le général, retenu à Pétersbourg par son service. S'il avait la chance de rencontrer Ivan Fédérovitch, peut-être celui-ci le prendrait-il avec lui pour l'emmener aussitôt à Pavlovsk. Mais il y avait une visite que le prince tenait beaucoup à faire auparavant. Au risque de manquer le général et d'avoir à remettre au lendemain son voyage à Pavlovsk, il résolut d'aller à la recherche de la maison où il désirait tant se rendre. En un sens, du reste, cette visite ne laissait pas d'être délicate pour lui, et il hésitait fort à accomplir une démarche qui lui paraissait risquée. La maison, il le savait, était située rue Aux Pois, non loin de la Sadovaya, et il se mit en route, dans l'espoir que, chemin faisant, il aurait le temps de prendre une résolution définitive. En arrivant à l'endroit où les deux rues se croisent, le prince s'étonna de son extraordinaire agitation. Il n'avait pas prévu que son cœur battrait si violemment. Une maison dont il était encore éloigné attira son attention, probablement parce qu'elle offrait un aspect particulier. Plus tard, le prince se rappela qu'il s'était dit « C'est certainement cette maison-là ». Il s'approcha avec une curiosité extrême pour vérifier sa conjecture, sentant qu'il lui serait fort désagréable d'avoir deviné juste. C'était une grande et sombre maison de 3 étages. Dénuée de tout cachet artistique, elle attristait le regard par le ton vert sale de sa façade. Quelques demeures semblables, bâties à la fin du siècle dernier, subsistent encore, en fort petit nombre, il est vrai, avec leur physionomie primitive dans ces rues de Pétersbourg où tout se transforme si vite. Solidement construites, elles se font remarquer par l'épaisseur de leurs murs et l'excessive rareté de leurs croisées. Au rez-de-chaussée, le plus souvent occupé par une boutique de changeurs, les fenêtres sont parfois grillées. Le Skopets a son appartement au-dessus du local où il exerce son commerce. Au dehors comme au dedans, on sent là quelque chose de sec, d'inhospitalier et de mystérieux. D'où provient cette impression? Il serait difficile de l'expliquer. Cela tient sans doute à l'ensemble des lignes architecturales. Ces maisons sont presque exclusivement habitées par des marchands. Au moment où il approchait de la grande porte, le prince y vit un écriteau ainsi conçu. Maison de Rogojin, bourgeois notable héréditaire. Triomphant de ses hésitations, il ouvrit la porte vitrée qui se referma bruyamment sur lui, et il monta au 2e étage par un escalier de parade en pierre. Cet escalier obscur et grossièrement construit était enfermé dans une cage peinte en rouge. Le prince savait que Rogojin occupait avec sa mère et son frère tout le 2nd étage de cette maison maussade. Le domestique qui vint ouvrir introduisit le visiteur sans l'annoncer, et Mushkin eut à marcher longtemps à la suite de son guide. Ils traversèrent d'abord une salle de parade, lambrissée de marbre, parquetée de chênes et garnie d'un lourd mobilier dans le style de 1820. Puis ils s'engagèrent dans un dédale de petites pièces qui n'étaient pas de plein pied les unes avec les autres. Sans cesse, il leur fallait monter ou descendre 2 ou 3 marches. À la fin, ils frappèrent à une porte que Parfen Semenitch ouvrit lui-même. En apercevant le prince, il pâlit et resta pendant un certain temps comme pétrifié. Son regard avait une fixité effarée, et le sourire qui crispait ses lèvres indiquait le comble de la stupeur. L'apparition de Muishkin semblait lui faire l'effet d'un événement impossible, presque d'un miracle. Cela même étonna le visiteur, qui, pourtant, s'était attendu à quelque chose de pareil. « Parfen, je suis peut-être venu mal à propos. Je vais m'en aller, » dit-il d'un air confus. « Non, non, tu es venu à propos, » répondit Rogojin, reprenant enfin conscience de lui-même. « Entre, je te prie. » Il se tutoyait. À Moscou, ils s'étaient vus fréquemment, et même plusieurs des moments qu'ils avaient passés ensemble leur avaient laissé à tous deux une impression ineffaçable. Maintenant, ils se retrouvaient en face l'un de l'autre, après une séparation de plus de 3 mois. Le visage de Rogojin était toujours pâle et légèrement convulsé. Quoi qu'il eût fait entrer le visiteur, il restait en proie à une agitation extraordinaire. Tandis qu'il invitait le prince à s'asseoir près de la table, celui-ci, par hasard, se retourna vers lui et surprit dans son regard une expression si étrange qu'il s'arrêta net. En même temps, un souvenir récent, sombre et pénible, revint à l'esprit de Muishkin. Debout, immobile, il considéra pendant quelque temps les yeux de Rogojin, lesquels, dans le premier moment, parurent briller d'un éclat plus vif encore. À la fin, Parfen Semenitch sourit, mais il était un peu troublé, et comme interdit. « Pourquoi me regardes-tu si fixement ? » murmura-t-il. « Assieds-toi. » Le prince s'assit. « Parfen, dit-il, parle-moi franchement. Savais-tu ou ne savais-tu pas que je viendrais aujourd'hui à Pétersbourg ?»«
Je me doutais bien que tu viendrais, » répondit Rogojin. « Et tu vois que je ne me trompais pas, » continua-t-il avec un sourire aigre. « Mais comment pouvais-je savoir que tu arriverais aujourd'hui ?»
Il prononça ces mots avec une sorte de brusquerie irritée qui ajouta encore à l'étonnement et à l'embarras du visiteur.
« Quand même tu l'aurais su, pourquoi te fâcher ainsi ?» reprit doucement le prince.
« Mais toi, à quel propos m'adresses-tu cette question ?» Tantôt, en sortant du wagon, j'ai aperçu une paire d'yeux, tout pareil à ceux que tu dardais sur moi par derrière il y a un instant.
« Bah, à qui donc appartenait-il ? »
murmura d'un air louche Rogojin. Le prince crut remarquer qu'il frissonnait.
« Je ne sais pas, c'était dans la foule, il se peut même que j'aie été dupe d'une illusion. Je suis maintenant sujet à cela. »
« Ami Parfen, je me sens presque dans l'état où j'étais il y a 5 ans, lorsque j'avais des attaques. »«
Eh bien, en effet, tu as peut-être eu la berlue. Je ne sais pas, »
dit entre ses dents Rogojin. Malgré ses efforts pour donner à son visage une expression bienveillante, le sourire affable qu'il avait en ce moment sur les lèvres jurait avec l'ensemble de sa physionomie.
« Alors, tu vas retourner à l'étranger ?»
demanda-t-il. Puis tout à coup, il ajouta.
« Te rappelles-tu notre voyage en wagon de Pskov à Pétersbourg l'automne dernier ? Tu te souviens de ton manteau et de tes guêtres ?»
Et Parfen Semenitch éclata soudain d'un rire, cette fois franchement haineux. On aurait dit qu'il était bien aise de donner ainsi une issue à sa colère.
« Tu t'es fixé ici définitivement ?»
interrogea le prince en parcourant des yeux le cabinet.
« Oui, je suis chez moi. Où veux-tu donc que j'habite ?»«
Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. J'ai entendu raconter à ton sujet d'étranges choses. »«
Qu'est-ce qu'on n'en raconte pas ?»
répliqua sèchement Rogojin.
« Pourtant, tu as licencié toute la bande. Tu restes dans la maison paternelle, tu ne fais pas de fredaine. C'est bien. La maison est-elle à toi ou vous appartient-elle en commun ?
Elle est à ma mère. Le corridor sépare son appartement du mien.
Et où loge ton frère ?
Mon frère Semen Semenitch habite dans le pavillon.
Il est marié ?
Il est veuf. Pourquoi tiens-tu à savoir cela ?
Le prince le regarda sans répondre. Il était devenu soudain pensif et probablement n'avait pas entendu la question de Rogojine. Celui-ci ne la renouvela pas et attendit. Il y eut un silence.
Tout à l'heure, étant encore à 100 pas de cette maison, j'ai deviné que c'était la tienne, dit le prince.
Comment cela ?
Je ne le sais pas bien. Ta maison a la physionomie de toute votre famille. Les Rogojine, en y habitant, semblent l'avoir marquée de leur empreinte. Mais si tu me demandes comment je suis arrivée à cette conclusion, je ne puis te l'expliquer. C'est sans doute un délire. J'ai peur même en voyant comme cela m'agite. Auparavant, je ne me serais même pas imaginé que tu demeurais dans une telle maison. Et sitôt que je l'eus aperçue, je me dis « Ce doit être là, sa demeure. »
« Vraiment ?»
fit avec un sourire vague Parfen Semenitch, qui n'avait pas compris grand-chose à la pensée obscure du prince.
« C'est mon grand-père qui a fait bâtir cette maison, » observa-t-il. « Des Skotpsi, des Kloudiakov y ont toujours habité, et nous en avons encore pour locataire à présent. »
« Quelle obscurité ! Il ne fait pas gai chez toi !» dit le visiteur en examinant de nouveau le cabinet. C'était une vaste pièce, haute, sombre et encombrée de meubles. On y voyait surtout de grandes tables à écrire, des bureaux, des armoires remplies de livres d'affaires et de papiers. Un large divan en maroquin rouge servait évidemment de lit à Rogojine. Sur la table, près de laquelle Parfen Semenitch l'avait fait asseoir, le prince aperçut 2 ou 3 livres, dont l'un, l'histoire de Soloviev, était ouvert. Un signet marquait l'endroit où le lecteur s'était interrompu. Au mur étaient suspendus dans des cadres, en partie dédorés, quelques tableaux à l'huile tellement enfumés qu'on pouvait difficilement en reconnaître les sujets. Un portrait de grandeur naturelle attira l'attention du prince. Il représentait un quinquagénaire vêtu d'une redingote de coupe allemande, mais à longs pans. Le personnage figuré sur cette toile portait au cou 2 médailles. Il avait la barbe blanche, courte et clairsemée, le visage jaune et sillonné de rides, le regard défiant, sournois et chagrin.
« Ce n'est pas ton père ?»
demanda le prince.
« Si, c'est lui, »
répondit avec un sourire désagréable Rogojine, comme s'il eût pensé que le visiteur faisait cette question pour décocher ensuite quelques plaisanteries désobligeantes à l'adresse du défunt.
« Ce n'était pas un vieux croyant. »
Non, il allait à l'église, mais la vérité est qu'il manifestait des préférences pour l'ancien culte. Il tenait aussi les Skoptzi en grande estime. Cette pièce était son cabinet avant de devenir le mien. Pourquoi m'as-tu demandé si c'était un vieux croyant ?
Ta noce aura lieu ici ?
Oui, répondit Parfen Semenitch, qui frissonna presque à cette question inattendue.
« Ce sera bientôt ?
Tu sais toi-même si cela dépend de moi. »
« Parfen, je ne suis pas ton ennemi, et je ne veux te traverser en rien. Je te le répète maintenant, comme je te l'ai déjà déclaré une fois, dans une circonstance analogue à celle-ci. Quand ton mariage se préparait à Moscou, ce n'est pas moi qui l'ai empêché, tu le sais. » La première fois, elle-même s'est, pour ainsi dire, échappée de dessous la couronne et est accourue vers moi, me priant de la sauver de toi. Je te cite ses propres paroles. Plus tard, elle m'a quitté à mon tour. Tu l'as retrouvée. Et au moment où tu allais la conduire à l'hôtel, elle t'a de nouveau planté là, dit-on, pour se réfugier ici. Est-ce vrai ? Lebedev me l'a écrit. Voilà pourquoi je suis venue. Quant au raccommodement qui a lieu ici entre vous, j'en ai eu la première nouvelle hier en wagon. J'ai appris cela par un de tes anciens amis, Zaliojev, si tu veux le savoir. En me rendant à Pétersbourg, j'avais un but. Je voulais la décider à aller à l'étranger, dans l'intérêt de sa santé. Le corps et l'âme sont très malades chez elle, la tête surtout, et à mon avis, elle a besoin de grands soins. Mon intention n'était pas de la conduire moi-même à l'étranger. Je l'aurais fait partir, mais je ne l'aurais pas accompagnée. Je te dis la vérité vraie. Si en effet vous êtes maintenant remis ensemble, je ne me montrerai pas devant ses yeux et ne te ferai plus aucune visite. Tu sais toi-même que je ne cherche pas à te tromper, car j'ai toujours été sincère avec toi. Jamais je ne t'ai caché ma manière de voir à ce sujet, et je t'ai toujours dit que ton mariage avec elle causerait infailliblement sa perte. À toi aussi il sera fatal, peut-être encore plus qu'à elle. Si vous vous brouillez de nouveau, j'en serai fort content. Mais personnellement, je ne ferai rien pour vous désunir. Sois donc tranquille et ne me soupçonne pas. D'ailleurs, tu sais toi-même si j'ai jamais été ton rival dans le sens véritable du mot, même quand elle s'est réfugiée auprès de moi. Voilà que tu ris. Je sais ce qui te fait rire. Oui, nous avons vécu là-bas, séparés l'un de l'autre, habitant chacun une ville différente, et tu es parfaitement instruit de tout cela. Je t'ai déjà expliqué que je ne l'aime pas d'amour, mais de compassion. Je crois la définition exacte. Tu m'as dit alors que tu comprenais ces mots. Est-ce vrai ? Les as-tu compris ? Quelle expression de haine il y a dans ton regard ! Je suis venue pour te mettre l'esprit en repos, car toi aussi tu m'es cher. Je t'aime beaucoup, Parfaine. Maintenant je m'en vais, et je ne reviendrai jamais. Adieu. Le prince se leva. Rogojine ne bougea point de sa place. Reste encore avec moi, dit-il doucement en appuyant sa tête sur sa main droite. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Le visiteur s'assit. La conversation fut momentanément interrompue. Quand tu n'es pas devant moi, je me prends aussitôt à te haïr, Léon Nikolaïevitch. Durant ces 3 mois que j'ai passés sans te voir, j'étais à chaque instant furieux contre toi, et je t'aurais volontiers empoisonné. C'est la vérité. Maintenant, il n'y a pas un quart d'heure que tu es avec moi, et déjà toute ma haine disparaît. Tu me redeviens aussi cher qu'autrefois. Reste donc encore un moment. Lorsque je suis avec toi, tu me crois. Mais je ne t'ai pas plutôt quitté que le soupçon succède chez toi à la confiance. Tu es tout le portrait de ton père, répondit le prince avec un sourire amical. Il s'efforçait de cacher le sentiment qu'il éprouvait. Je crois à ta voix quand nous sommes ensemble. Je comprends bien qu'on ne peut pas nous mettre sur la même ligne, toi et moi. Pourquoi as-tu ajouté cela? Et voilà que tu es encore fâché, dit le prince en fixant un regard étonné sur Rogojine. Mais ici, mon ami, on ne demande pas notre avis, on a décidé sans nous consulter, reprit Parfen Semenitch. Et après un silence, il poursuivit à voix basse. Chacun de nous a même sa façon particulière d'aimer, c'est-à-dire que nous différons en tout l'un de l'autre. Tu dis que tu as pour elle un amour de compassion. Elle ne m'inspire à moi aucun sentiment de ce genre. D'ailleurs, elle me déteste au plus haut point. À présent, je rêve d'elle chaque nuit. Il me semble toujours la voir se moquant de moi avec un autre. C'est ainsi, mon ami. Elle va être ma femme, et elle ne se soucie pas plus de moi que du soulier qu'elle vient de quitter. Le croiras-tu ? Je ne l'ai pas vu depuis 5 jours, parce que je n'ose lui faire visite. « Pourquoi es-tu venu ?» me demanderait-elle. « C'est peu qu'elle m'ait couvert de honte. »«
Comment t'a-t-elle couvert de honte ? Qu'est-ce que tu dis ?»«
Comme s'il ne le savait pas. Mais voyons, elle m'a quitté pour s'enfuir avec toi. Elle s'est échappée de dessous la couronne. Ce sont les expressions mêmes dont tu t'es servi tout à l'heure. »
Toi-même, tu ne crois pas que...
Est-ce qu'elle ne m'a pas déshonoré à Moscou avec un officier, avec Zemtuznikov ? Je sais de science certaine qu'elle m'a déshonoré. Et cela après avoir fixé elle-même le jour de la cérémonie nuptiale.
C'est impossible !
S'écria le prince.
Je le sais positivement !
Reprit avec conviction Rogojin. Elle n'est pas ainsi, diras-tu ?
« Mon ami, il ne faut pas dire cela, c'est simplement absurde. Avec toi, elle ne sera pas ainsi, une pareille chose lui fera horreur. Mais avec moi, il en est tout autrement, tu peux en être sûr. Elle me considère comme la dernière des vermines. Son affaire avec Keller n'a été pour elle qu'une façon de se moquer de moi. Mais tu ne sais pas encore le tour qu'elle m'a joué à Moscou, et combien d'argent j'ai dépensé.
« Mais comment donc l'épouses-tu maintenant ? Que feras-tu après ?» demanda le prince avec terreur. Un regard sinistre fut la seule réponse de Rogojin. « Il y a aujourd'hui 5 jours que je n'ai été chez elle, » continua-t-il après un instant de silence. « Je crains toujours qu'elle ne me mette à la porte. « Je suis encore ma maîtresse, » dit-elle. « Si je veux, je te chasserai définitivement et j'irai à l'étranger. »
Elle m'a dit qu'elle irait à l'étranger,
observa-t-il comme entre parenthèses, et ses yeux se fixèrent avec une expression particulière sur ceux du prince. Quelquefois, à la vérité, elle se contente de me faire peur et de se moquer de moi. Mais à d'autres moments, elle fronce les sourcils, prend une mine sévère, ne prononce pas une parole. « Voilà ce que je crains. Je ne me présenterai pas les mains vides, » décidai-je un jour. « Eh bien, elle m'a accueilli par des railleries et ensuite s'est mise en colère. Je lui apportai un châle comme peut-être elle n'en avait pas encore vu, quoiqu'elle ait vécu dans le luxe autrefois. Elle en a fait cadeau à sa femme de chambre, Katka, et pas moyen de risquer le moindre mot pour demander quand notre mariage aura lieu. » Quelle position que celle d'un prétendu qui n'ose pas aller voir sa future. Je reste ici, et quand je ne puis plus y tenir, je vais rôder le plus secrètement possible aux abords de sa maison, où je me cache quelque part dans un coin. Une fois, après être demeuré ainsi en faction devant sa porte presque jusqu'à l'aurore, je crus remarquer quelque chose. Elle, de son côté, m'aperçut par la fenêtre.
« Qu'est-ce que tu me ferais, dit-elle, si tu découvrais que je te trompe ?»
Je ne pus m'empêcher de lui répondre. « Tu le sais toi-même. »«
Qu'est-ce qu'elle sait ?»«
Le sais-je, » reprit avec un rire sardonique Parfen Semenitch. « Dans le temps, à Moscou, j'ai eu beau l'espionner, je n'ai pu la surprendre avec personne. Un jour, je lui dis, « Tu as promis de m'épouser. Tu vas entrer dans une famille honnête. Et sais-tu, toi, ce que tu es ? Voici ce que tu es. »
« Tu le lui as dit ? » ?»«
Oui. » »«
Eh bien ?»«
Bien loin de vouloir être ta femme, » répondit-elle. « Je ne consentirai peut-être pas à te prendre pour la quai. »«
N'importe, » repris-je, « je ne m'en irai pas d'ici. »
« Eh bien, répliqua-t-elle, je vais faire venir Keller, je lui parlerai et il te jettera à la porte. »
Je m'élançai sur elle et je la meurtris de coups.
« Ce n'est pas possible !» s'écria le prince. « Je te dis la vérité, » poursuivit d'une voix douce Rogojin, dont pourtant les yeux étincelaient. Pendant 36 heures, je restais sans dormir, sans manger, sans boire. Je ne quittais pas sa chambre, je m'agenouillais devant elle. « Je mourrais, lui dis-je. Je ne m'en irai pas avant que tu m'aies pardonné. Et si tu me donnes ordre de m'expulser, je me jetterai à l'eau, car que ferai-je désormais sans toi ? Durant toute cette journée-là, elle fut comme une folle. Tour à tour, elle pleurait, prenait un couteau pour me tuer ou m'accablait d'injures. Elle appela Zaliojev, Keller, Zemtujnikov, etc. Me montra à eux et me fit honte devant tout ce monde. « Messieurs, allons tous ensemble au théâtre. Qu'il reste ici puisqu'il ne veut pas s'en aller. Ce n'est pas lui qui m'empêchera de sortir. Je vais donner des ordres pour qu'on vous serve du thé, Parfen Semenitch, car vous devez avoir faim, n'ayant rien mangé aujourd'hui. » Elle revint seule du théâtre. « Ce sont des poltrons et des lâches, » commença-t-elle. « Ils ont peur de toi et veulent m'effrayer. » « Il ne s'en ira pas, » disent-ils. « Il vous assassinera peut-être. »« Eh bien, quand j'irai me coucher, je ne fermerai pas la porte de ma chambre. Voilà comme j'ai peur de toi. Il faut que tu le saches et que tu le vois. As-tu pris du thé ?»«
Non, » répondis-je, « et je n'en prendrai pas. » »«
Tu mets de l'amour-propre à bouder contre ton ventre, mais cela ne te va guère. » Et elle fit comme elle l'avait dit. Elle ne ferma point sa porte. Le lendemain, au sortir de sa chambre à coucher, elle m'interpella en riant. « Tu es fou, sans doute. Ainsi, tu veux te laisser mourir de faim. »«
Pardonne-moi, » lui dis-je.
« Je ne veux pas te pardonner. Je ne t'épouserai pas, c'est dit. Se peut-il que tu aies passé la nuit entière sur ce fauteuil, que tu n'aies pas dormi ?»«
Non, je n'ai pas dormi. »«
Quel homme intelligent ! Et tu ne veux toujours pas boire de thé. Tu ne veux pas dîner. »
« Je te l'ai dit, je ne prendrai rien. Pardonne-moi. »
« Si seulement tu savais combien cela te va mal, » reprit-elle, « c'est comme une selle sur le dos d'une vache. Tu crois peut-être m'effrayer, mais qu'est-ce que cela me fait que tu te prives de nourriture ? Libre à toi de ne pas manger, je m'en moque un peu. »
Elle se fâcha, mais ce ne fut pas pour longtemps, et bientôt elle se remit à plaisanter. Je m'étonnais même de trouver en elle si peu de colère, car c'est une femme haineuse et vindicative. Une explication me vint alors à l'esprit. « Elle me méprise trop, » pensais-je, « pour pouvoir me garder longtemps rancune. » Et c'est la vérité.
« Sais-tu, » me demanda-t-elle, « ce que c'est que le pape de Rome ?»«
J'en ai entendu parler, » répondis-je.
« Tu n'as pas appris l'histoire universelle, Parfen Semenovitch ?»«
Je n'ai rien appris. »«
Eh bien, voici une chose que je vais te donner à lire. » Un pape était fâché contre un empereur, et avant d'obtenir son pardon, celui-ci dut rester 3 jours, sans boire, sans manger, agenouillé, pieds nus, devant le palais du pape. Pendant les 3 jours que cet empereur passa à genoux, quelles furent, selon toi, ses pensées ? Quel serment fit-il au fond de son âme ?
Mais attends, ajouta-t-elle, je te lirai cela moi-même. Elle courut chercher un livre.
C'est de la poésie, dit-elle. Et elle se mit à me lire un monologue en vers, dans lequel cet empereur, abreuvé d'humiliation, jurait de se venger du pape. Est-il possible que cela ne te plaise pas, Parfen Semenitch ?
« Tout ce que tu viens de lire est très juste, » répondis-je.
« Ah, tu trouves que c'est juste. Par conséquent, peut-être que toi-même tu te dis « Quand elle sera ma femme, je lui ferai payer tout ça. »
« Je ne sais pas, » repris-je. « Peut-être est-ce mon idée, en effet. »«
Comment, tu ne sais pas ?»«
Non, je ne sais pas. Ce n'est point à cela que je pense maintenant. »
« Et à quoi penses-tu donc maintenant ?»
Vois-tu, quand tu te lèves de ta place, quand tu passes à côté de moi, je te regarde et je te suis des yeux. J'entends le froufrou de ta robe et mon cœur défaille dans ma poitrine. Tu quittes la chambre, je me rappelle toutes tes paroles avec l'intonation de chacune d'elles. Durant toute cette nuit, je n'ai pensé à rien. Je ne cessais d'écouter le bruit de ta respiration. J'ai remarqué que tu t'es remué 2 fois en dormant.
« Mais les coups que tu m'as donnés, » ricana-t-elle, « tu n'y penses pas ? Tu les as oubliés ? » Peut-être bien que je n'y pense pas, je n'en sais rien. Et si je ne te pardonne pas, si je refuse de t'épouser ?
Je te l'ai dit, je me noierai.
Tu me tueras peut-être auparavant.
En prononçant ces mots, elle devint songeuse. Ensuite, elle se fâcha et sortit.
Une heure après, je la vis reparaître, elle était fort sombre.
« Parfen Semenovitch, me dit-elle, je t'épouserai. Non que j'ai peur de toi, mais parce qu'il m'est égal de me perdre. D'ailleurs, autant cela qu'autre chose. Assieds-toi, on va te servir à dîner. Et quand je t'aurai épousée, je te serai fidèle, n'en doute pas. »
Elle s'arrêta un instant, puis reprit. « Après tout, tu n'es pas un laquais comme je l'avais cru jusqu'à présent. » Elle fixa alors le jour de notre mariage, et la semaine suivante, elle me planta là pour venir ici demander un asile à Lebedev. Quand je la retrouvai à Pétersbourg, elle me dit « Je ne renonce pas absolument à t'épouser. Je veux seulement attendre autant qu'il me plaira, parce que je suis toujours ma maîtresse. Tu peux faire de même si bon te semble. »
Voilà quelles sont à présent nos relations. Qu'est-ce que tu penses de tout cela, Léon Nikolaïevitch ?
Toi-même, qu'en penses-tu ?
Demanda le prince, les yeux tristement fixés sur Rogojin.
Mais est-ce que je pense ? S'écria ce dernier.
Il voulait encore ajouter quelque chose, et pourtant il se tut. Aucune parole n'aurait pu rendre le tourment qu'il éprouvait. Le visiteur se leva avec l'intention de se retirer.
« Quoi qu'il en soit, je ne me mettrai pas sur ton chemin, » dit-il à voix basse.
Ces mots prononcés d'un air distrait semblaient moins s'adresser à Rogojin que répondre à une pensée secrète du prince.
« Sais-tu ce que je vais te dire ? »
fit tout à coup Parfen Semenitch avec une animation dont témoignait l'éclat de ses yeux.
« Je ne comprends pas que tu me la cèdes ainsi. Est-ce que tu as complètement cessé de l'aimer ? Auparavant, tu étais tourmenté, je le voyais bien. Pourquoi donc es-tu accouru si précipitamment à Pétersbourg ? Par compassion ?»
Et un sourire méchant fit grimacer son visage.
« Hé hé !
Tu penses que je te trompe ?» demanda le prince.
« Non, je te crois. Seulement, je n'y comprends rien. » Autant que j'en puis juger, ta compassion est encore plus intense que mon amour. »
L'altération de ses traits ne laissait aucun doute sur la colère qui l'agitait.
« L'amour et la haine se confondent chez toi, » remarqua en souriant le prince. « Mais l'amour passera, et alors ce sera peut-être encore pire. Je te dis, ami Parfen,
que je l'assassinerai ?» Le prince frissonna. Tu la haïras violemment à cause de l'amour que tu éprouves maintenant pour elle et de toutes les souffrances que tu endures en ce moment. Ce qui m'étonne, on ne peut plus, c'est qu'elle consente encore à devenir ta femme. Hier, quand j'ai appris cela, j'ai eu peine à y croire, et il m'en est resté une impression des plus pénibles. Deux fois déjà elle a refusé de t'épouser. Au moment de recevoir la bénédiction nuptiale, elle a pris la fuite. Sans doute elle obéissait à un pressentiment. Qu'est-ce donc qui maintenant la pousse à t'accorder sa main ? Ton argent ? C'est absurde. D'ailleurs, tu dois déjà avoir passablement ébréché ta fortune. Le simple désir de se marier ? Mais elle pourrait faire un autre choix. N'importe qui serait pour elle un meilleur parti que toi, car tu l'assassineras, et peut-être ne le comprend-elle que trop bien maintenant. L'ardeur de ton amour ?
Il se peut que ce soit cela, en effet. J'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui tiennent précisément à être aimées ainsi, mais...
Le prince, pensif, n'acheva pas sa phrase.
« Pourquoi as-tu encore souri en regardant le portrait de mon père ?»
demanda Rogojin, qui observait avec une extrême attention les moindres changements de physionomie dont le visage de son interlocuteur lui offrait le spectacle.
« Pourquoi j'ai souri ? L'idée m'était venue que, sans ce malheureux amour qui a fait dérailler ton existence, tu serais devenu tout pareil à ton père, et cela en fort peu de temps. Tu resterais cloîtré dans cette maison, seul avec une femme obéissante et muette. Tu n'ouvrirais la bouche que pour prononcer de loin en loin quelques paroles sévères. Tu te défierais de tout le monde, et tu ne sentirais même pas le besoin de te confier à quelqu'un. Sombre et taciturne, tu te contenterais de gagner de l'argent. Tout au plus, arrivé au déclin de l'âge, tu vanterais parfois les vieux livres et tiendrais pour le signe de la croix fait avec deux doigts. Moque-toi. Ce que tu me dis là, elle me l'a dit mot pour mot dernièrement, après avoir aussi contemplé ce portrait. C'est prodigieux comme vous vous accordez maintenant en tout. Mais est-ce qu'elle est déjà venue chez toi ? Questionna avec curiosité le prince. Oui, elle considéra longuement le portrait, m'interrogea au sujet du défunt. Voilà ce que tu aurais été, finit-elle par me dire en souriant. Tu as des passions fortes, Parfen Semenitch, des passions qui te conduiraient vite en Sibérie, aux travaux forcés, si tu n'avais pas aussi de l'intelligence. Mais tu es fort intelligent. Le croiras-tu ? Elle a dit cela. C'était la première fois que je l'entendais parler ainsi. Tu renoncerais vite aux folies de jeunesse, et comme tu es un homme dépourvu d'instruction, tu te mettrais à amasser de l'argent. Tu resterais, comme ton père, dans cette maison avec tes scopti. Peut-être à la fin, te convertirais-tu toi-même à leur religion. Tu aimerais tant les richesses que tu ferais une fortune non pas de 2 millions, mais de 10, quitte ensuite à mourir de faim sur tes sacs d'or, car tu es extrême en tout. Je te répète presque textuellement ces paroles. Jamais encore elle ne m'avait tenu un pareil langage. Elle me parle toujours de rien ou me décoche des railleries. Dans cette circonstance même, elle commença en riant, mais ensuite son visage s'assombrit. Elle visita toute cette demeure et elle paraissait effrayée. « Je changerai tout cela, lui dis-je. Je transformerai complètement cette maison ou j'en achèterai une autre quand nous nous marierons. »« Non, non, » répondit-elle. « Il ne faut faire ici aucun changement. Nous conserverons cette installation. Je veux vivre près de ta mère lorsque je serai ta femme. » Je la présentai à ma mère. Elle lui témoigna un respect vraiment filial. La pauvre femme est malade, et il y a 2 ans que ses facultés intellectuelles sont altérées, et depuis la mort de mon père, elle est tout à fait comme un enfant. Muette, impotente, elle se borne à saluer d'une inclination de tête ceux qui la visitent. Je crois bien que, si on ne lui donnait pas à manger, elle resterait des 3 jours sans s'en apercevoir. Je pris la main droite de ma mère et lui joignis les doigts. « Bénissez-la, Matouchka, » dis-je, « elle va m'épouser. » Elle baisa avec sentiment la main de la vieille. « Ta mère a certainement beaucoup souffert, » me dit-elle. Le livre que voici attira son attention. « Eh bien, » fit-elle, « tu t'es mis à la lecture de l'histoire russe ?» Elle-même m'avait justement dit à Moscou « Tu devrais t'instruire un peu, lire au moins l'histoire russe de Soloviev. Tu ne sais rien du tout. » Tu as raison, approuva-t-elle. Continue. Si tu veux, je te donnerai moi-même une liste des ouvrages que tu dois lire avant tous les autres. Et jamais, jamais jusqu'alors, elle ne m'avait parlé de la sorte, si bien que ce langage me stupéfia. Pour la première fois, je respirais comme un homme vivant. « J'en suis enchantée, Parfen, enchantée !» dit le prince avec une satisfaction sincère. « Qui sait, Dieu mettra peut-être l'union entre vous ?»« Cela n'arrivera jamais !» fit Rogojine d'un ton véhément. « Écoute, Parfen, si tu l'aimes tant, se peut-il que tu ne veuilles pas mériter son estime ? Et si tu le veux, se peut-il que tu ne l'espères pas ? Tout à l'heure, j'ai dit que je trouvais incompréhensible qu'elle consentît à t'épouser. Mais, quoique je ne puisse m'expliquer le fait, une chose pourtant reste incontestable pour moi. c'est qu'il doit y avoir à cela une cause suffisante, rationnelle. Elle est convaincue de ton amour, mais elle est, à coup sûr, persuadée aussi que tu possèdes certaines qualités. Il ne peut pas en être autrement. Le récit que tu viens de faire confirme cette assertion. Tu dis toi-même qu'elle a pu te tenir un langage tout différent de celui auquel elle t'avait accoutumé. Tu es soupçonneux et jaloux. C'est pourquoi tu as exagéré tout ce que tu as remarqué de mauvais. Certes, elle ne te juge pas aussi défavorablement que tu le dis. Autrement, t'épouser, ce serait pour elle, en quelque sorte, se noyer de propos délibérés, ou aller, en connaissance de cause, au-devant du couteau. Est-ce que c'est possible? Qui va sciemment chercher la mort? Parfaine écouta jusqu'à la fin, avec un sourire amer, les chaleureuses paroles de son interlocuteur. Sa conviction paraissait inébranlable. « Quel sombre regard tu fixes en ce moment sur moi, Parfaine !» fit le prince péniblement impressionné. « Se noyer ou aller au-devant du couteau ?» dit Rogojine, sortant enfin de son mutisme. « Eh, mais elle m'épouse parce qu'elle s'attend bien à périr de ma main. Vraiment, prince, se peut-il que tu n'aies pas encore deviné de quoi il retourne ?»« Je ne te comprends pas. » « Peut-être bien qu'en effet il ne comprend pas. On prétend que tu n'es pas comme tout le monde. Elle en aime un autre, voilà le fait. Elle l'aime maintenant tout comme elle est maintenant aimée de moi. Et cet autre, sais-tu qui il est? C'est toi. Eh bien, tu l'ignorais? Moi? Oui, son amour pour toi a pris naissance le jour de sa fête. » Seulement, elle juge un mariage avec toi impossible, parce qu'elle te couvrirait de honte et ferait le malheur de ta vie. « On sait qui je suis, » dit-elle. Elle n'a jamais varié jusqu'à présent dans son langage. Elle-même m'a déclaré cela en face, sans détour. Toi, elle craint de te perdre et de te déshonorer. Mais, en ce qui me concerne, aucun scrupule de ce genre ne l'arrête. Moi, on peut m'épouser. » Voilà la considération dont elle m'honore. Note aussi cela. Mais comment se fait-il qu'elle t'ait quitté pour se réfugier auprès de moi et qu'ensuite elle soit revenue à moi? Mais en est-on encore à compter les fantaisies qui lui viennent tout d'un coup à l'esprit? Actuellement, elle se trouve dans une sorte d'état fébrile. Un jour, elle me crie « Je t'épouse comme je me jetterai à l'eau. Marions-nous bien vite !» Elle-même hâte les préparatifs, fixe la date de la cérémonie, puis, quand le moment approche, elle s'effraye, ou d'autres idées lui passent par la tête. Dieu le sait, tu l'as bien vu. Elle pleure, elle rit, elle s'agite fiévreusement. Et si elle s'est sauvée loin de toi, qu'y a-t-il là d'étonnant? Elle t'a quitté parce qu'elle a reconnu combien elle t'aimait. Elle n'était plus capable de résister à sa passion. Tu disais tantôt que j'avais cherché après elle dans Moscou. C'est une erreur. Pour se dérober à toi, elle-même s'est réfugiée auprès de moi. Fixe le jour, me dit-elle. Je suis prête. Fais venir du champagne. Allons chez les Tsiganes. Sans moi, il y a longtemps qu'elle se serait jetée à l'eau, tu peux en être sûr. Si elle ne se noie pas, c'est parce que j'offre peut-être encore plus de danger que la rivière. Elle m'épousera par colère. Si elle m'épouse. Mais, toi, comment donc? S'écria le prince. Il n'en put dire davantage et regarda Rogojine avec terreur. Celui-ci sourit. Pourquoi donc n'achèves-tu pas? Veux-tu que je te dise quelle idée t'occupe en ce moment même? Comment donc maintenant peut-elle l'épouser? Comment laisser faire ce mariage? « Je sais bien à quoi tu penses. »« Je ne suis pas venu ici pour cela, Parfaine. Je te le répète, ce n'est pas cela que j'avais dans l'esprit. »«
Il se peut que tu ne sois pas venu pour cela et que tu aies eu autre chose dans l'esprit. »« Mais maintenant, c'est pour sûr à cela que tu songes. Allons assez. Pourquoi es-tu si bouleversé? Se peut-il que ce soit vraiment pour toi une révélation ?» « Tu m'étonnes. » « Tout cela, Parfaine,
Tout cela est une maladie. Tu as démesurément exagéré tout cela, balbutia le prince, en proie à une agitation extraordinaire. Qu'est-ce que tu as ?
Laisse, dit Rogojine, et arrachant vivement des mains du visiteur un petit couteau que celui-ci avait pris sur la table à côté du livre, il se hâta de le remettre en place.
Je m'en doutais, quand je suis arrivé à Pétersbourg. J'en avais, pour ainsi dire, le pressentiment, continua le prince. Je ne voulais pas venir ici. Je voulais oublier tout cela, l'extirper de mon cœur. Allons, adieu.
Mais qu'est-ce que tu as ?
Tout en parlant, Mushkin, distrait, avait repris le petit couteau par un mouvement machinal, et de nouveau, Parfen Semenitch s'était empressé de le lui retirer des mains pour le jeter sur la table. Ce couteau n'avait rien d'extraordinaire. La lame, emmanchée dans un bois de serre, était longue de 3,5 verschocks et large en proportion. Voyant que sa persistance à lui arracher des mains cet objet avait attiré l'attention du prince, Rogojine saisit le couteau avec colère, le fourra dans le livre et jeta celui-ci sur une autre table.
« Tu t'en sers pour couper les pages, n'est-ce pas ?» demanda le prince, qui semblait ne pouvoir secouer le fardeau d'une préoccupation obsédante.
« Oui, pour couper les pages. »«
C'est un couteau de jardin ?»«
Oui. Est-ce qu'on ne peut pas couper les pages d'un livre avec un couteau de jardin ?»«
Mais il est tout neuf. »«
Eh bien, qu'importe. Est-ce que je ne puis pas acheter un couteau neuf ?»
répliqua dans un transport de colère Parfen Semenitch, dont l'irritation s'était accrue à chaque parole prononcée par le visiteur. Celui-ci eut un frisson. Il regarda fixement Rogojine, puis, sortant soudain de sa rêverie, il se mit à rire.
« Quelle idée ! Pardonne-moi, mon ami, quand j'ai la tête lourde comme maintenant et que j'éprouve les atteintes de cette affection, je suis sujet à des absences ridicules. Ce n'était pas du tout cela que j'avais envie de te demander. Je ne me rappelle plus la question que je voulais te faire. Adieu. »
« Pas par là, » dit Rogojine.
« Je l'avais oublié.
Par ici, par ici. Je vais te conduire. »
Chapitre 4. Ils passèrent par les mêmes chambres que le prince avait déjà traversées. Rogojine marchait un peu en avant, Mushkin le suivait. Ils entrèrent dans la vaste salle, au mur de laquelle étaient appendus plusieurs tableaux, des portraits d'évêques et des paysages, où l'on ne pouvait rien distinguer. Au-dessus de la porte, qui donnait accès dans la pièce suivante, était accrochée une toile d'une configuration assez bizarre. Longue d'environ 2,5 archines, elle ne mesurait pas plus de 6 verschocks en hauteur. C'était une descente de croix. En l'apercevant, le prince parut se rappeler quelque chose. Toutefois, il ne voulait pas s'attarder à examiner cette peinture, pressé qu'il était de sortir d'une maison où il se sentait fort mal à l'aise. Mais Rogojine s'arrêta tout à coup devant le tableau.
« Toutes ces toiles, » dit-il. « Mon feu père les a achetées dans des ventes. Il aimait cela. Aucune ne lui a coûté plus d'un rouble ou deux. Un connaisseur est venu les visiter ici. Il a dit que c'était toute croûte, sauf celle qui se trouve au-dessus de cette porte, et qui a été payée 2 roubles, comme les autres. Du vivant de mon père, quelqu'un lui en a offert 350 roubles. » Et Ivan Dimitrich Savaliev, un marchand qui raffole de la peinture, est allé jusqu'à 400.
C'est une copie de Hans Holbein, fit le prince après avoir examiné le tableau. Et autant que j'en puis juger, sans être grand connaisseur, une copie excellente. J'ai vu l'original à l'étranger, et je ne saurais l'oublier.
Mais qu'est-ce que tu as ?
Sans s'occuper du tableau, Rogojine s'était soudain remis en marche.
À la vérité, ces façons singulières s'expliquaient encore chez un homme distrait et irritable comme l'était en ce moment Parfen Semenitch. Néanmoins, le prince trouva étrange qu'il négligeât de répondre et mit fin si brusquement à une conversation commencée par lui. « Je voulais depuis longtemps te demander une chose, Léon Nikolaïtch. Crois-tu en Dieu, oui ou non ?» reprit tout à coup Rogojin après avoir fait quelques pas. « Quelle étrange question ! Et comme tu me regardes !» ne put s'empêcher d'observer le prince. Rogojin resta un moment silencieux. « J'aime à contempler ce tableau » murmura-t-il comme s'il avait oublié sa question. « Ce tableau ! » s'écria le prince subitement frappé d'une idée. « Ce tableau ! Mais en considérant ce tableau, un homme peut perdre la foi !»« Oui, on la perd, » reconnut Parfen Semenitch au grand étonnement de son interlocuteur. Ils étaient arrivés à la porte de sortie. « Comment ? » fit le prince qui s'arrêta soudain. « Mais qu'est-ce que tu dis ? C'était presque une plaisanterie de ma part, et toi tu parles si sérieusement. Et pourquoi m'as-tu demandé si je crois en Dieu ? » Pour rien, par simple curiosité. C'est une idée que j'avais depuis longtemps, et il y a maintenant beaucoup d'incrédules. Quelqu'un m'a dit que chez nous, en Russie, les athées étaient plus nombreux qu'en aucun autre pays. Est-ce vrai ? Tu dois savoir cela, toi qui as vécu à l'étranger. » Rogojin avait sur les lèvres un sourire venimeux. Après avoir fait sa question, il ouvrit brusquement la porte et, la main appuyée sur le bouton de la serrure, attendit que le visiteur se retirât. Celui-ci sortit, passablement étonné, il est vrai. Rogojin le suivit sur le palier et referma la porte de son logement. Tous deux restèrent en face l'un de l'autre. Ils semblaient avoir oublié où ils étaient et ce qu'ils avaient à faire. « Adieu !» dit le prince en tendant la main à Parfen Semenitch. « Adieu !» fit ce dernier, et il serra avec force, mais tout à fait machinalement, la main qu'on lui présentait. Le prince descendit une marche et se retourna. « À propos de la foi !» commença-t-il en souriant. Évidemment, il ne voulait pas quitter ainsi Rogojin. La semaine passée, j'ai fait en 2 jours 4 rencontres différentes. Un matin, voyageant dans chemin de fer, je me suis trouvé avoir pour compagnon de route S, avec qui j'ai causé pendant 4 heures. J'avais déjà beaucoup entendu parler de lui, et je savais notamment qu'il était athée. C'est un homme fort instruit, et je me réjouissais de pouvoir m'entretenir avec un vrai savant. De plus, il est parfaitement élevé, en sorte qu'il m'a parlé tout à fait comme si j'avais été son égal sous le rapport de l'intelligence et de l'instruction. Il ne croit pas en Dieu. Seulement, j'ai été frappé d'une chose, c'est que tout ce qu'il disait semblait étranger à la question. J'avais déjà fait une remarque analogue chaque fois qu'il m'était arrivé précédemment de causer avec des incrédules ou de lire leurs livres. Il m'avait toujours paru que tous leurs arguments, même les plus spécieux, portaient à faux. Je ne le cachais pas à S, mais sans doute je m'exprimais en termes trop peu clairs car il ne me comprit pas. Le soir, je m'arrêtais dans une ville de district. À l'hôtel où je descendis, tout le monde s'entretenait d'un assassinat qui avait été commis dans cette maison la nuit précédente. 2 paysans d'un certain âge, 2 vieux amis, qui n'étaient ivres ni l'un ni l'autre, avaient bu le thé, puis étaient allés se coucher. Ils avaient demandé une chambre pour eux deux. L'un de ces voyageurs avait remarqué, depuis 2 jours, une montre d'argent retenue par une chaînette en perles de verre que son compagnon portait et qu'il ne lui connaissait pas auparavant. Cet homme n'était pas un voleur, il était honnête, et fort à son aise pour un paysan. Mais cette montre lui plut si fort, il en eut une envie si furieuse, qu'il ne put se maîtriser. Il prit un couteau, et dès que son ami eut le dos tourné, il s'approcha de lui à pas de loup, visa la place, leva les yeux au ciel, se signa, et murmura dévotement cette prière.
« Seigneur, pardonne-moi par les mérites du Christ. » Il égorgea son ami d'un seul coup, comme un mouton, puis il lui prit la montre. Rogojine éclata de rire. Il y avait même quelque chose d'étrange dans cette subite gaieté d'un homme qui jusqu'alors était resté si sombre. « Voilà, j'aime ça. Non, il n'y a pas mieux que ça !» criait-il d'une voix entrecoupée et presque haletante. L'un ne croit pas du tout en Dieu, et l'autre y croit à un tel point qu'il fait une prière avant d'assassiner les gens. « Non, prince, mon ami, on n'invente pas ces choses-là. Non, il n'y a pas mieux que ça. » « Le lendemain matin, j'allais me promener dans la ville, » continua le prince, dès que l'hilarité de Rogojine fut un peu calmée et ne se manifesta plus que par le tremblement convulsif des lèvres. Je rencontre un soldat ivre festonnant sur le trottoir pavé en bois. Il m'accoste. « Barine, achète-moi cette croix d'argent, je te la cède pour 2 grivenas, une croix en argent. » Il avait en main une croix que sans doute il venait d'ôter de son cou. Elle était attachée à un petit cordon bleu. Mais, au premier coup d'œil, on voyait qu'elle était en étain. Elle avait 8 pointes et reproduisait fidèlement le type byzantin. Je tirai de ma poche une pièce de 2 grivenas, je la donnai au soldat et me passai sa croix au cou. La satisfaction d'avoir floué un sot barine se manifesta sur son visage, et je suis persuadée qu'il alla immédiatement dépenser au cabaret le produit de cette vente. Alors, mon ami, tout ce que je voyais chez nous faisait sur moi la plus forte impression. Auparavant, je ne comprenais rien à la Russie. Dans mon enfance, j'avais vécu comme hébété, et plus tard, pendant les 5 années que j'avais passées à l'étranger, il ne m'était resté du pays natal que des souvenirs en quelque sorte fantastiques. Je continue donc ma promenade en me disant « Non, j'attendrai encore avant de condamner ce Judas. Dieu sait ce qu'il y a au fond de ces faibles cœurs d'ivrogne. » 1 heure après, comme je revenais à l'hôtel, je rencontrai une paysanne qui portait dans ses bras un enfant à la mamelle. La femme était encore jeune. L'enfant pouvait avoir 6 semaines. Il souriait à sa mère, et cela pour la première fois depuis sa naissance. Tout à coup, je vis la paysanne se signer si pieusement, si pieusement. « Pourquoi fais-tu cela, ma chère ?» lui demandai-je. Alors je questionnais toujours. « Eh bien, me répondit-elle, autant une mère est joyeuse quand elle remarque le premier sourire de son nourrisson, autant Dieu éprouve de joie chaque fois que du haut du ciel, il voit un pécheur élever vers lui une fervente prière. » C'est une femme du peuple qui m'a dit cela, presque dans ces mêmes termes, qui a exprimé cette pensée si profonde, si fine, si véritablement religieuse, où se trouve tout le fond du christianisme, c'est-à-dire la notion de Dieu considéré comme notre Père, et l'idée que Dieu se réjouit à la vue de l'homme comme un père à la vue de son enfant. La principale pensée du Christ, une simple paysanne. À la vérité, elle était mère, et qui sait, c'était peut-être la femme de ce soldat. Écoute, Parfaine, voici ma réponse à ta question de tout à l'heure. Le sentiment religieux, dans son essence, ne peut être entamé par aucun raisonnement, par aucune faute, par aucun crime, par aucun athéisme. Il y a ici quelque chose qui reste et restera éternellement en dehors de tout cela, quelque chose que n'atteindront jamais les arguments des athées. Mais le principal, c'est que nulle part on ne remarque mieux cela que dans le cœur du Russe. Et voilà ma conclusion. C'est une des toutes premières impressions que j'ai reçues de notre Russie. Il y a affaire, Parfaine. Il y a affaire dans notre monde russe, crois-moi. Rappelle-toi les entretiens qu'à une certaine époque nous avons eus ensemble à Moscou. Et je ne voulais pas du tout revenir ici maintenant. Ce n'était certes pas ainsi que je comptais me rencontrer avec toi. Eh bien, mais quoi? Adieu, au revoir, que Dieu ne t'abandonne pas. » Il tourna les talons et descendit l'escalier. Léon Nikolaïevitch !»
cria du carré Parfen, quand le prince fut arrivé en bas. « La croix que tu as achetée à ce soldat, l'as-tu sur toi ?»«
Oui. »
Et ce disant, le prince s'arrêta.
« Montre-la donc !»
Encore une fantaisie bizarre. Après un moment de réflexion, Mishkine remonta, et sans ôter sa croix de son cou, la fit voir à Rogojine.
« Donne-la-moi, » dit celui-ci.
« Pourquoi ? Est-ce que tu... »
Le prince aurait préféré ne pas se séparer de cette croix.
« Je la porterai et je te donnerai la mienne à la place. »
« Tu veux que nous échangions nos croix ?
Sois, Parfen, s'il en est ainsi, je ne demande pas mieux. Fraternisons. »
Le prince tendit sa croix d'étain à Parfen, qui lui donna sa croix d'or. Celui-ci, pourtant, restait silencieux. En vain, les deux hommes venaient de fraterniser. Le prince remarquait, avec une pénible surprise, que le visage de Rogojine exprimait encore la défiance, et que, par moments du moins, un sourire amer, presque railleur, continuait à plisser ses lèvres. À la fin, Parfen Semenitch prit, sans proférer un mot, la main de Mishkine. Pendant un certain temps, il parut hésiter. Puis, tout à coup, d'une voix presque inintelligible, il dit au prince « Viens avec moi !» et l'entraîna à sa suite. Ils traversèrent le palier du premier étage et sonnèrent à une porte vis-à-vis de celle par où ils étaient sortis. On ne tarda pas à leur ouvrir. Une vieille femme, toute voûtée et portant un mouchoir noir noué autour de sa tête, fit silencieusement une profonde révérence à Rogojine. Il lui adressa à la hâte une question et, sans attendre la réponse, introduisit le prince dans l'appartement. Là encore, c'étaient des pièces sombres dont la propreté extraordinaire avait quelque chose de glacial. Les meubles vieux et d'un aspect sévère étaient recouverts de housses blanches fort propres. Sans se faire annoncer, Rogojine passa avec le prince dans une sorte de petit salon coupé en deux par une cloison en acajou, derrière laquelle se trouvait apparemment une chambre à coucher. Dans un coin du salon, près du poêle, était assise sur un fauteuil une petite vieille qui ne paraissait pas encore trop âgée. Son visage, resté assez plein et assez agréable, avait un certain air de santé, mais ses cheveux étaient tout blancs, et on s'apercevait à première vue qu'elle était tout à fait tombée en enfance. Vêtue d'une robe de laine noire, elle avait au cou un grand mouchoir noir et sur la tête un bonnet blanc très propre, garni de rubans noirs. Ses pieds étaient posés sur un tabouret. À côté d'elle, tricotait en silence une autre vieille, d'un âge plus avancé, qui, comme elle, était vêtue de deuil et coiffée d'un bonnet blanc. Quelques parasites, sans doute. Probablement, aucune conversation n'avait jamais lieu entre ces deux femmes. Lorsque Rogojine entra avec son compagnon, la première vieille sourit et, pour témoigner sa joie de leur visite, les salua à plusieurs reprises d'un aimable signe de tête. « Ma mère, » dit Rogojine après lui avoir baisé la main, « voici mon grand ami, le prince Léon Nikolaïevitch Mishkine. Nous avons échangé nos croix. À Moscou, pendant un temps, il a été un frère pour moi. « Je lui dois beaucoup. Bénis-le, ma mère, comme tu bénirais un fils. Attends, vieille, donne-moi ta main, que je te dispose les doigts. » Mais, sans attendre que Parfen lui prît la main, la vieille la leva, rapprocha trois doigts et, par trois fois, fit pieusement le signe de la croix sur le prince. Cette bénédiction fut accompagnée d'un nouveau salut, affectueusement adressé à Mishkine. « Eh bien, allons-nous-en, Léon Nikolaïevitch, » dit Rogojine. « Je ne t'avais amené que pour cela. » Quand ils se retrouvèrent sur le palier, il ajouta « Vois-tu, elle ne comprend rien à ce qu'on dit, et mes paroles sont certainement restées lettres closes pour elle. Pourtant, elle t'a béni. C'est donc qu'elle-même avait envie de le faire. Allons,
Adieu, le moment est venu de nous quitter. »
Et il ouvrit la porte de son appartement. Le prince fixa sur Rogojine un regard chargé de tendres reproches. « Mais laisse-moi au moins t'embrasser avant que nous nous séparions, homme étrange que tu es !» s'écria-t-il, et il lui tendit les bras. Parfaine leva aussi les siens, mais presque immédiatement les laissa retomber. Un combat se livrait en lui, et, ne voulant pas embrasser le prince, il évitait de le regarder.
« N'aie pas peur ! Quoique j'aie pris ta croix, je n'assassinerai pas pour une montre !»
murmura-t-il avec un rire étrange. Mais tout à coup, une transformation complète s'opéra dans sa physionomie. Il devint affreusement pâle, ses lèvres commencèrent à frémir et ses yeux à flamboyer. Levant les bras, il serra avec force le prince contre sa poitrine et dit d'une voix étranglée «
Eh bien, prends-la, puisque la destinée le veut. Elle est à toi. Je te la cède. Souviens-toi de Rogojine. »
Sur ce, il s'éloigna précipitamment du prince et, sans le regarder, rentra à la hâte dans son appartement, dont il ferma la porte avec bruit.